Eh bien, bonjour à tous. J'ai pas pu voir tout le monde. Ce matin, je vous propose la lecture d'un passage qui peut pas toujours être bien compris dans la Bible. Il se trouve à deux endroits. Et donc, on va lire ces deux passages. Le premier, c'est dans Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 9, les versets 43 à 47. Marc chapitre 9, versets 43 à 47. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Jusque-là, pour ce premier passage. Le deuxième passage, dans Matthieu 5, versets 29 à 30, c'est sensiblement le même, mais pas dans le même contexte. Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors, ces deux passages peuvent faire comprendre le titre que j'ai mis un peu curieux, s'auto-mutiler pour le paradis. Si on lit rapidement ces deux passages, on pourrait se dire, si je veux être sûr d'aller au paradis, il faut peut-être que je me coupe le bras parce que je fais des mauvaises choses avec, ou que je m'arrache les yeux parce que je vois des mauvaises choses et que ça peut m'entraîner et m'éloigner du paradis, ou du moins m'emmener en enfer, un GN, ce qui est dit par le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui peut poser beaucoup de questions. On pourrait se dire, mais comment est-ce que je dois appliquer cela? Est-ce que je dois vraiment me couper un bras, m'arracher un œil, me couper une jambe? Il y a quelques temps, on regardait une série médicale, bon, c'est pas pour la série, mais bon, les anatomies pour pas la citer, mais dans cette série, il y avait un exemple d'un adolescent qui venait parce qu'il pensait qu'il voulait se suicider, mais en fait il disait qu'il voulait se couper la main parce qu'il faisait des mêmes choses avec la main, et qu'en application de ce passage biblique, il voulait se couper la main parce que ça le tentait et qu'il fallait se couper la main. Alors devant les piètres explications que donnaient les médecins à ce passage biblique, je me suis dit qu'il fallait peut-être revoir un petit peu le contexte et pourquoi et comment comprendre et interpréter ces deux passages. Alors, la première partie, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ce passage-là? Et bien, on pourrait le comprendre de manière d'abord littérale. Éviter d'être jeté en enfer. Et pour cela, il est dit, concrètement, ce que dit le Seigneur, il dit, si on veut éviter d'être tenté, et donc de pécher, et d'être jeté dans la géhenne, si quelque chose nous amène à pécher, eh bien, il va falloir s'en séparer. Alors, pour ça, il faut regarder exactement le texte. Il est dit, le texte, c'est occasion de chute. Si ton œil, ta main, ton pied est une occasion de chute, eh bien, il faut t'en séparer. Qu'est-ce que ça veut dire, occasion de chute? Si on regarde dans le grec, c'est un terme grec qui est très facile à comprendre. C'est scandalizo, qui a donné scandalisé en français. Alors, la première traduction qu'on pourrait donner, c'est poser une pierre d'achoppement ou un obstacle dans le chemin, attirer à pécher. Et donc, on doit arracher, c'est assez clair, hein, enlever, déraciner, extraire, loin de moi, tout ce qui m'attire au péché. Alors, on va creuser un petit peu. Qu'est-ce qui m'attire au péché ? Ben, je vais lire simplement Matthieu 15, versets 18 et 19. Il est dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 14-15, il est dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Alors là, j'ai un petit souci. C'est que si je veux appliquer littéralement le passage de me séparer, de couper tout ce qui m'attire au péché, ben, il va falloir que je m'arrache le cœur pour le jeter loin de moi, ou plus précisément couper la tête, hein, la convoitise elle est déjà dans le cerveau. Bon, c'est radical, mais au moins je ne pêcherai plus, puisque je serai mort. Mais c'est un petit problème quand même, parce que là on peut se poser des questions. Si on a bien compris le passage. Alors, on appellerait ça du suicide d'ailleurs. Donc, bon. Et même sans aller jusqu'à ces extrémités-là, si les apôtres eux-mêmes avaient appliqué littéralement ce passage, bah, ils étaient tous aveugles, manchots, boiteux, etc. Parce que tous ont été attirés par certaines choses. Et donc même dans l'église, on serait une équipe de bras cassés, on peut dire ça comme ça. S'il fallait qu'on applique ça littéralement. Et puis surtout, cela causerait une autre question et qui est fondamentale. Si je me coupe quelque chose, est-ce que cela va me garantir l'accès au paradis ? Si le fait que je ne pêche plus, est-ce que cela va me garantir l'accès au paradis ? Le Seigneur, dans ce passage, ne dit pas que le fait de me séparer de ce qui m'attire au péché va effacer les péchés que j'ai déjà faits. Et donc, je ne serai pas plus sauvé si je me coupe un bras ou une jambe ou autre, si effectivement je ne pêche plus, parce que j'ai déjà péché avant, et ce, dès le commencement, dès le début. Donc la solution pour pouvoir accéder au paradis, ben, ce n'est pas de se séparer, de se couper un bras ou une jambe. Il faut donc peut-être voir les choses autrement, et voir comment est-ce que l'on peut être purifié de ses péchés passés pour pouvoir aller au paradis et donc ne pas aller dans la géhenne. Alors là, vous allez dire, c'est assez simple, vous connaissez beaucoup de passages comme cela, je vais en prendre juste un seul, Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et cela ne vient pas de vous. J'ai envie de dire, heureusement. Heureusement, le salut ne vient pas de nous, parce que sinon, comme on vient de le voir, nous serions morts. S'il fallait qu'on arrive à gagner quelque chose pour le salut, qu'on se sépare de tout ce qui nous attire au péché, etc., eh bien, on n'y arriverait pas. Et ça serait impossible. Mais c'est par le moyen de la foi, et c'est par Dieu, que nous pouvons être sauvés. Alors dans ce cas-là, si dans le passage que nous avons lu dans Marc et Matthieu sur le fait de se séparer de ceux qui nous attirent à pécher, est-ce que ce passage-là pourrait dire que on peut perdre son salut ? Parce que si on doit se séparer de tout ce qui nous attire au péché pour ne pas être jeté à la géhenne, on peut se poser la question, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un risque que j'y aille ? Si moi qui suis sauvé, est-ce que je risque d'aller en enfer ? Est-ce que je peux perdre mon salut ? Alors, là encore, il va falloir creuser un petit peu plus pour voir est-ce que cela est possible. Alors, quand on parle de perdre son salut, on parle des personnes qui y ont le salut. Ce que l'on appelle habituellement des chrétiens. Mais attention, qu'est-ce qu'on appelle un chrétien? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait la prière régulièrement, qui vient à l'église tous les dimanches. C'est quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, qui a accepté Jésus comme son sauveur unique, qui croit au Seigneur Jésus. Selon Ephésiens 2, verset 8, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Un chrétien est une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le chrétien n'est pas une version améliorée de sa personne. Ce n'est pas quelque chose qu'il a réussi à modifier de par lui-même. Il est une nouvelle créature en Christ. Quelqu'un de nouveau. Cela voudrait dire que si un véritable croyant perdait son salut, eh ben, ça voudrait dire qu'il faudrait détruire cette nouvelle création. Revenir en arrière. Et pour faire quoi alors? Puisque si on est une nouvelle créature, l'ancienne a déjà été disparue. Donc si on redétruit la nouvelle, on est quoi après derrière? Il y a quelque chose qui ne va plus. Mais il n'y a pas que cela. Le chrétien a été racheté. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis aux ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 18-19. Le terme « racheté » implique le paiement d'un prix. En l'occurrence, la mort de Christ. Donc si le chrétien pouvait perdre son salut, cela voudrait dire que l'on devrait révoquer le rachat au prix précieux du sang de Christ, qu'on revienne sur un achat définitif qui a été fait à la croix une fois pour toutes. Cela n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est celui qui a racheté qui devrait revenir, mais ce n'est pas son intention. Enfin, le chrétien est justifié. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 2. Justifié signifie rendre juste comme il doit être, montrer, exposer, démontrer sa justice comme on est et comme on souhaite être considéré. Déclarer, prononcer la justice de quelqu'un, le justifier. Qui c'est qui nous a justifiés? C'est Jésus-Christ. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur sont déclarés justes, sont reconnus comme justes, et sont déclarés justes par Dieu, par Jésus. C'est Dieu qui l'a dit, vous êtes juste par le sang de Jésus, vous avez cru en Jésus, vous êtes justifié. Le jugement a été rendu. Et donc, si jamais on pouvait perdre le salut, ça voudrait dire que Dieu reviendrait sur le jugement qu'il a déjà rendu. Or, l'Éternel ne change pas. Dieu ne se repent pas. Et il ne va pas changer la sentence qu'il a donnée. Il a donné un jugement. Il a dit que nous étions justes. Ceux qui se sont confiés en lui sont déclarés justes. C'est définitif. Et heureusement, on ne peut pas perdre notre salut. On est définitivement acquis auprès de notre Dieu. Et ça, c'est une vraie grâce. Ça veut donc dire que si on interprète littéralement le passage de se séparer de tout ce qui nous attire au péché, eh bien, le Seigneur a dit, il vaut mieux se séparer d'un bras, d'une jambe, d'un œil, plutôt que d'aller en enfer. Mais moi, je suis rassuré. Je n'ai aucun risque d'aller en enfer. Si j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai la garantie d'aller au paradis.
Amen.
Amen. Donc, je n'ai pas besoin de me séparer de quoi que ce soit. Même si il m'est arrivé, malheureusement, quelquefois, d'être tenté, de sombrer quelquefois dans le péché. Ça, c'est du passé. Je suis garanti d'aller au paradis. Donc, je n'ai pas besoin de me séparer de tout. De me couper un bras si jamais je fais les mauvaises choses avec mon bras. Ceci dit, ça ne veut pas dire que peut-être on a des choses à faire et à appliquer par rapport à ce passage-là. Si le Seigneur nous donne cette instruction-là, ce n'est pas pour juste pour rien, ce n'est pas pour juste nous raconter une histoire qui n'a pas de sens. On sait que nous croyants, rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Nous sommes enfants de Dieu. Notre accès au ciel est garanti. Mais nous devons prendre cet avertissement du Seigneur pour notre quotidien, pour savoir qu'est-ce que nous devons faire au quotidien. Et ça veut dire peut-être que nous ne devons pas l'appliquer forcément de manière littérale, mais peut-être de manière métaphorique, de manière contextuelle, pour l'appliquer au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire cela, l'appliquer au quotidien ? Eh bien, ça peut être déjà se séparer de tout ce qui nous attire au mal. Si on regarde le contexte, dans Marc chapitre 9, les deux versets qui précèdent ce que l'on vient de lire, on avait un autre exemple. Verset 41, « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisé, un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. » Le mot scandalisé ici, c'est le même que occasion de chute qu'on a vu tout à l'heure, dans le grec en tout cas. Et dans les deux cas, on a mis il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une grosse meule de moulin, ce qui voudrait dire, c'est du conditionnel, ça serait préférable. Dans le passage après, il est dit il vaut mieux pour lui, c'est du présent. C'est le même mot, c'est la même conjugaison dans les deux passages. Ça n'a pas été traduit avec le même temps, mais le sens de ce passage nous indique que c'est ce qui serait souhaitable, ce qui est préférable. C'est pas, faut pas le prendre en sens littéral, mais c'est une indication de ce vers quoi on doit tendre. Il vaudrait mieux pour lui. Et c'est une indication que, à toute chose, des fois, il faut faire des sacrifices, mais il est préférable de faire des sacrifices, de se séparer de certaines choses, que de risquer d'aller en enfer. Et là, ça concerne ceux qui ne croient pas encore. C'est-à-dire que si jamais pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, eh ben, il a besoin de se séparer du mal, séparer de certaines choses qui le maintiennent dans cet état de pécheur, eh ben, il faut des fois faire des sacrifices qui sont très durs, pour se tourner vers Christ et être sauvé. Mais c'est pas seulement pour les non-croyants que cela s'adresse. Cela s'adresse aussi pour les croyants. Non pas dans le sens où ils risquent d'aller en enfer, mais dans le sens où ce que l'on fait est aussi un témoignage vis-à-vis des autres. La suite du passage de Marc, verset 49-50, il est dit « Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Dans ce passage qui suit, eh bien le Seigneur nous parle du sel qui donne de la saveur. Et ce sel nous parle aussi de la purification, donner du goût. Et le Seigneur, à travers cet exemple-là, nous appelle à avoir une vie purifiée, mais une vie aussi qui va être un témoignage vis-à-vis des autres, qui va montrer qu'est-ce que nous avons en nous. Autrement dit, nous sommes appelés à nous séparer de ce qui est mal, ce qui n'est pas selon Dieu, non pas pour nous garantir l'accès au ciel, parce que si nous sommes vraiment convertis, ben, nous avons cet accès qui nous est garanti, mais parce que nous voulons montrer que Christ est en nous, parce que nous avons ce désir de le suivre, ce désir de vivre pour lui. Et pour cela, eh bien, nous devons nous séparer de ce qui est mauvais. L'apôtre Paul nous donne quelques exemples. En 2 Corinthiens, au chapitre 6, versets 14 et 18, il nous est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » L'apôtre Paul ici nous rappelle que nous sommes appelés à nous séparer de tout ce qui nous attire au mal, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas selon Dieu. Parce que cela nous influence et cela ne sera pas un bon exemple vis-à-vis des autres. Il commence par nous dire de ne pas se mettre sous un joug étranger. Le joug, c'est quelque chose qu'on ne sait plus trop aujourd'hui ce que c'est, mais c'était... Lorsqu'on travaillait les champs avec les animaux, c'est la pièce de bois qui reliait les deux bœufs, généralement, ou les deux chevaux, entre eux, pour tirer la charrue de manière correcte. Et si sur le même joug, eh bien, on met deux personnes qui sont mal assorties, si je mets un cheval et un bœuf, ça va être très décalé, et ça risque de ne pas tirer de la même manière, donc ça va partir de travers, on va risquer de dépenser encore plus d'énergie pour arriver à tenir la charrue dans le bon sens droite que si jamais on avait mis deux bœufs identiques. C'est très important d'équilibrer la puissance de charge qui va tirer le joug. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours pour le croyant. Si on se met avec des personnes qui ne sont pas croyants ou qui vont nous attirer au mal, et bien on risque d'avoir beaucoup de mal à tenir le chemin, à rester droit. Parce que ça va partir dans tous les sens. On va dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à rester dans le bon chemin, parce qu'il va falloir compenser l'énergie de l'autre qui tire dans le mauvais sens, et ça va devenir très 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 dur. Et l'apôtre Paul nous indique tout simplement, il ne faut pas se mettre sous un joug avec un étranger, parce que ça sera très difficile, ça va mal tomber pour nous, on n'arrivera pas à tenir, et finalement on va sombrer, on va s'éloigner de Dieu. C'est un risque pour nous et ça ne sera pas un bon témoignage. Nous sommes appelés tout simplement à nous séparer de tout ce qui nous attire au mal. Exactement comme le Seigneur l'a dit, alors il a dit avec un exemple très physique, se couper la main, se couper la jambe, mais ailleurs dans l'ensemble des épîtres, on voit bien qu'il s'agit de se séparer de tout ce qui peut nous influencer, nous attirer au mal, nous éloigner de Dieu. Éphésiens 5, versets 8 à 13, il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Nous sommes donc appelés sans ménagement à nous séparer de tout ce qui nous sépare de Dieu. Et il faut examiner ce qui est agréable au Seigneur. Autrement dit, ce n'est pas une liste de choses interdites dont il faudrait qu'on se sépare. Il faut que l'on regarde chaque chose au filtre de ce qui est agréable au Seigneur. Chaque chose que je fais, chaque chose que je vis, je dois regarder. Est-ce que c'est agréable au Seigneur ? Oui ou non ? C'est agréable au Seigneur ? Je peux continuer. Ce n'est pas agréable au Seigneur ? Eh bien, je dois arrêter. Je dois m'en séparer. Et ces choses-là, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Par exemple, si j'utilise Internet, ou mon smartphone. Si j'utilise pour le travail ou pour lire ma Bible, sur le smartphone aujourd'hui, on peut tout à fait avoir sa Bible dessus. C'est une très bonne chose. Alors, il n'y a aucun souci à utiliser le smartphone, à utiliser Internet pour cela. Mais en revanche, si je ne peux m'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux pendant le culte, parce que je suis attiré de voir autre chose, etc. Et au lieu d'être sur l'adoration, je vais être déconcentré à faire autre chose. Ou si lorsque je vais sur Internet, soi-disant pour travailler, mais que je peux m'empêcher d'aller voir quelques sites impurs, immoraux, ah ben alors peut-être qu'il faut que j'apprenne à m'en séparer. Si je ne suis pas capable d'avoir un usage correct, eh ben il faut que j'apprenne à m'en séparer. Il faut que je coupe le cordon et que je m'en sépare. Et c'est la même chose pour toutes nos activités. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui est mauvais, mais c'est ce qu'on en fait. C'est la même chose pour la télé, par exemple. La télé en elle-même, elle n'est pas impure. Hein. C'est pas la télé, n'est pas un objet du diable, etc. Non, mais c'est l'usage qu'on en fait qui peut être un objet qui nous attire au mal. C'est ce que nous en faisons. Et si nous en faisons une mauvaise chose, eh ben, nous devons apprendre à nous en séparer. À vivre sans. On peut très bien vivre sans. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça peut aussi servir pour apporter des témoignages à certaines personnes. Il y a des choses qui sont très bien, qui passent à la télé, qui permettent de pouvoir apporter des fois le témoignage des personnes qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire, qui n'ont pas d'image, etc. Ou des non-croyants qui n'ont pas envie de lire la Bible dans un premier temps, parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, ben peut-être que leur montrer un film peut leur donner envie, les attirer à Christ. On peut penser, en ce moment, il y a, enfin en ce moment c'est peut-être presque terminé, mais il y avait l'enquête sur justement le fait que Christ soit ressuscité. Ben, c'est un film qui peut-être attirer les personnes, des témoignages comme cela. Et donc c'est pas forcément une mauvaise chose que d'aller voir le cinéma, que de regarder la télé, mais il faut faire attention à ce qu'on en fait. Et le filtre très très simple, examiner est-ce que cela est agréable à Dieu. C'est pas compliqué à examiner et à savoir la réponse. Au fond de notre cœur, on la sait tout de suite la réponse. On sait très bien si c'est agréable à Dieu ou si c'est pas agréable à Dieu. Quand on fait notre travail, c'est agréable à Dieu, il nous demande de travailler. Être agréable à Dieu, c'est pas forcément être en train de lire sa Bible, prier, etc. Mais beaucoup de choses que l'on fait sont agréables à Dieu quand on travaille. Même quand on travaille dans le jardin, on entretient la création, c'est agréable à Dieu. C'est pas une mauvaise chose. On doit appliquer ce filtre à tout ce que nous faisons. Et en appliquant ce filtre, ben nous ferons ce que le Seigneur nous demande, c'est aussi d'être un témoignage vis-à-vis des autres. Parce que tout autour de nous, les non-croyants regardent ce que nous faisons. Et lorsqu'on va se séparer de tout ce qui nous éloigne de Dieu, eh bien, on va pouvoir témoigner de ce que Dieu demande de nous, de ce que Dieu voudrait. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12, nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Tout à l'heure, je vous ai dit que occasion de chute, c'est le même mot que scandaliser. Et en français, on sait bien ce que ça veut dire, scandaliser aussi. Être offensé dans quelqu'un, c'est-à-dire voir dans un autre ce que je désapprouve, ce qui m'empêche de reconnaître son autorité, être indigné. Et donc, nous sommes effectivement appelés à nous séparer de tout ce qui nous attire au mal pour ne pas scandaliser. Scandaliser qui ? Ben les autres. Pour pas scandaliser, être un scandale vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Vous vous dites chrétien ? Tu as vu tout ce que tu fais ? Tu as vu ce que tu fais là ? Tu te dis chrétien ? Mais tu n'es jamais à l'église ? Tu tu vas traîner en boîte, tu vas faire la fête, etc. Et tu te dis chrétien. Et par ce biais-là, eh ben, nous serons une occasion de chute. Non pas pour nous-mêmes, mais pour notre prochain. Et là, c'est encore plus grave. Parce que nous sommes appelés à attirer les autres à Christ. Mais si nous, par notre comportement, par notre attitude, nous les éloignons, alors là, nous sommes deux fois plus fautifs, j'ai envie de dire. Non seulement parce que nous ne faisons pas les bonnes choses, nous ne sommes pas agréables à Dieu, mais en plus, nous sommes l'occasion de chute pour notre prochain qui ne sera pas attiré à Christ. Se séparer du mal, c'est témoigner que Christ vit en nous. Si nous réalisons véritablement que Christ vit en nous, alors nous ne pouvons plus avoir le même comportement. Nous ne devrions plus être tentés par ces choses qui nous séparent de Dieu. Nous le sommes encore. Parce qu'il y a encore cette vieille nature, mais nous ne devrions plus. Nous devrions tendre vers tout ce qui est agréable à Dieu. Galates chapitre 2, versets 16 à 21. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la foi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs. Christ serait-il ministre du péché ? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car la justice s'obtient par la loi. Christ est donc mort en vain. Car si la justice s'obtient par la loi, pardon, Christ est mort en vain. Ce qui est très fort dans ce passage que dit l'apôtre Paul, c'est « j'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Combien c'est difficile de réaliser cela. C'est Christ qui vit en moi. Si je réalise cela, mais alors je ne peux plus être attiré par le mal. C'est Christ qui vit en moi. Si je suis tenté par quelque chose, mais je dois me dire, mais Christ vit en moi, je ne peux pas faire cela. Il est dit ailleurs que nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il habite en nous. Et si nous faisons des mauvaises choses, si nous continuons à faire des mauvaises choses, eh bien alors, on est une bien mauvaise maison pour le Saint-Esprit. Christ est en nous et nous faisons des mauvaises choses. Et bien, Christ doit être bien triste parce qu'on donne une bien mauvaise image. Si en tant que chrétien vous dites Christ est en moi, et puis après on dit Christ est en lui là, vous êtes sûr que Christ est en lui là? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais que chaque jour, nous ayons ça à l'esprit. Que dans chaque chose, nous disions, Christ vit en moi. Est-ce que mon prochain, il peut voir que Christ vit en moi? Est-ce que mon voisin, mon collègue de travail, il peut voir que Christ vit en moi? J'ai pas besoin de lui. Tu ne dois pas avoir besoin de lui dire que Christ vit en moi. Ça doit se voir. S'il ne le voit pas, je dois me poser des questions. S'il ne le voit pas, est-ce que Christ vit vraiment en moi? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment donné mon cœur au Seigneur? Est-ce que j'ai dit au Seigneur, viens habiter en moi? Nous avons une bonne nouvelle, c'est que le passage de ce coupé de tous les éléments qui nous attirent au mal, eh bien, il est déjà appliqué. Parce que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Ce qui nous attirait au mal a été crucifié. Nous devons maintenant nous appliquer à vivre dans la foi, à vivre comme Christ étant en nous, à vivre parce que nous savons ce qui nous attend. Au ciel, nous serons complètement dans notre nouvelle création, dans notre nouveau corps qui, lui, nous sera sans péché. Et nous devons nous appliquer à vivre dans la foi que nous sommes déjà sauvés, que nous sommes déjà au ciel. Nous avons déjà un pied là-haut. Et il faut vivre comme cela. En conclusion, je ne voudrais pas conclure moi-même, mais je voudrais tout simplement lire un passage encore. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17, et je vous propose plutôt que je le lise, eh bien que chacun lise un de ces versets. Il y a 17 versets. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17. Je vous laisse le temps de prendre chacun votre Bible et de lire ce passage. C'est l'apôtre Paul qui nous dit cela.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, et terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lequel vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ses péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle à la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Ni ainsi, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous.
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience.
Supportez-vous les uns aux autres, faites de grâce réciproquement. Si quelqu'un a ce plein d'amour comme Christ, vous avez grâce, vous aussi, faites de même. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, soyez reconnaissants.
Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voici notre ligne de conduite. Voilà comment appliquer le passage que le Seigneur a donné tout à l'heure. Dans Marc 9, et j'avais dit tout à l'heure aussi que le même passage était dans Matthieu chapitre 5, et dans Matthieu chapitre 5, ce passage de se couper le bras ou s'arracher l'œil est situé dans le sermon sur la montagne, où le Seigneur nous invite à tendre l'autre joue, à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous font du mal, etc. Et c'est effectivement ce que nous sommes appelés à faire, à montrer ce que Christ veut, à montrer que Christ vit en nous et à l'appliquer chaque jour. Amen.